Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était éclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint à au vôtre pareil. Le printemps réjouit nos cœurs, et après les primes verts, les tulipes, puis les lys, nous voici en admiration devant des plantes qui regorgent de senteurs, telles les glycines et les muguets. Les pivoines et les roses pointent leurs boutons, nouvelle promesse d'effluves. Ces fleurs tant attendues donnent un langage universel. Nous allons nous arrêter plus spécifiquement à la rose pour cette émission concoctée toujours par Elisabeth Boivin. Bonjour Elisabeth, pourquoi et comment cette fleur s'est-elle ainsi imposée à nous depuis bien des temps? Pourquoi cette rose est-elle la fleur, avec un grand L, un grand A, par excellence?
Bonjour Tita. Oui, effectivement, on peut se demander comment cette simple fleur, bardée d'épines, a pu devenir de médicinale au départ, source d'inspiration poétique, artistique, religieuse et à ce point mythique jusqu'à aujourd'hui. En fait, l'histoire de la rose se confond avec les préludes de la civilisation et même au-delà, et l'attrait de cette fleur sur l'homme n'a cessé de se développer jusqu'à nos jours. Alors, historiquement, les premières roses cultivées virent le jour au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de choses qui viennent du Moyen-Orient, depuis la plus haute antiquité, qui ont nourri nos civilisations occidentales.
Souvent, on l'oublie un peu trop.
Souvent, on l'oublie, et ils étaient en avance sur nous, sur bien des points. Au Moyen-Orient, et par le biais de la Grèce et de la Rome antique, elle vint à coloniser toute l'Europe, ces premières roses, alors qu'en Égypte, c'était plutôt le lotus qui était à l'honneur. Mais la rose va réussir à supplanter le lotus. Une guerre de la rose contre le lotus. Bref, on pense que les croisés, en fait, du XIIe et du XIIIe siècle en ont rapporté des plants de Terre Sainte chez nous. Et pour exemple, la rose de Damas, qui a fait la fortune de Provins. Donc, voilà les premières roses qui arrivent sur nos terres. Alors, vrai ou faux, par rapport à ce qu'on a, souvent dit que beaucoup de choses étaient arrivées par les croisés. Donc, il faut peut-être faire la part des choses. Mais il est sûr qu'au Moyen-Âge, les rosiers étaient cultivés dans tous les monastères d'Europe. On a vu, nous on a plus étudié dans une précédente émission les jardins médicinaux, mais la rose a des qualités, a des pouvoirs aussi médicinaux. Mais il y avait aussi la rose, un carré aussi de fleurs qui servait à décorer les hôtels aussi. La rose était appréciée pour ses pouvoirs médicinaux, mais aussi pour sa beauté et son parfum, j'imagine.
Oui, c'est très gracieux, en fait, hein, cette rose.
Oui. Alors, botaniquement parlant, la première rose sauvage était une fleur très simple, à 5 pétales, poussant sur tous les continents de l'hémisphère nord. Plus tard, des formes doubles, demi-doubles apparurent, et l'évolution de la rose se fit graduellement au fil des siècles, tout d'abord à travers des mutations tout à fait naturelles, et puis grâce plus tard à l'ingéniosité de l'homme qui mit au point des techniques de multiplication artificielle. Et ces rosiers sont ceux qui se trouvent dans des groupes appelés de nos jours Gallica de Damas et Alba. Donc ça, c'est les premières.
Et quand vous dites rose sauvage, on peut penser à l'églantier ?
Voilà, tout à fait. 5 pétales. Et les Santa Folia, c'est un peu ça, les 5 pétales. Et l'Église a récupéré beaucoup s'est appuyée sur beaucoup de formes dans la nature. Et les 5 pétales de l'églantine, eh bien, pour les 5 plaies du Christ.
D'accord.
Voilà, elle va adopter cette fleur en l'assimilant à l'histoire. Voilà, religieuse. Mm-hmm. Alors, les formes, effectivement, comme il est souligné, démarrent tout à fait simples, 5 feuilles, puis après, elles deviennent doubles, certaines demi-doubles, et certaines autres plus développées, et plus on va aller vers la rose moderne, et plus elle va être fournie en pétales, vraiment.
C'est un peu comme la pivoine, parfois, si on voit juste une fleur de pivoine, ça peut ressembler aux roses, surtout les roses anciennes,
voilà.
Ressemblaient.
Les roses anciennes qui, elles, sont très éphémères, mais qui sont très parfumées. Donc, l'idée dans la progression qui va se faire au niveau des roses, dans la progression technique, si on peut dire, ça va être de les faire durer plus longtemps, mais de leur faire avoir une odeur très proche des roses anciennes quand même aussi.
Parce qu'il me semble que dans les temps pas tellement passés, mais... La rose, on ne tenait plus à l'importance du parfum, et que maintenant, enfin c'est mon idée, que maintenant on y revient beaucoup et on retravaille le parfum de la rose.
Oui, on le retravaille, et c'est vrai que on revient aussi aux roses anciennes. Alors, c'est vrai que ces roses anciennes, elles faisaient le charme des jardins de curés, de ces jardins désuets où on trouvait des vieux poiriers, des vieux cerisiers, et puis ces roses qui semblaient tellement chez elles dans ces jardins. Et les roses modernes, effectivement, n'avaient pas de parfum, donc il fallait la recherche... on veut aujourd'hui, c'est un peu la quadrature du cercle, mais on veut aujourd'hui une rose... beaucoup plus, qui a une durée de vie plus longue, qui a des couleurs plus éclatantes, et le parfum. Et voilà.
On veut tout.
Voilà, et justement, vers le XVIIIe siècle, au fil des siècles, de nouvelles variétés apparurent, le plus souvent par hasard. Vers le XVIIIe siècle, les jardiniers et les pépiniéristes, surtout français, commencèrent à semer dans le but d'hybrider et sélectionner méthodiquement les meilleurs résultats. Donc c'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle qu'apparut un autre groupe apparenté, celui des Santifolia, c'est-à-dire littéralement à 100 pétales, qui possédait de belles fleurs, mais aussi une belle végétation et surtout un solide parfum. Donc l'arrivée de ce groupe permit à la rose de devenir la plus prisée des fleurs, et ce qu'elle est toujours aujourd'hui. Et puis elle est un symbole d'amour, les roses rouges, on va voir que les roses blanches sont plutôt dédiées à l'innocence, à la pureté. Voilà, tout le 19e siècle a raffolé des roses, mais c'est surtout les années 1890-1914, plus que les précédentes, qui ont donné son importance à la rose sous différents aspects. Celle de Bagatelle fut créée... Alors, parce que justement, à cette époque-là, qui était la période de l'art nouveau et de l'art déco, on a pris la rose comme symbole, beaucoup comme symbole de décoration, dans la sculpture, dans la tapisserie, dans plein de supports. Et puis, on ne se satisfaisait plus uniquement de la rose, mais on voulait des roseraies. On voulait vraiment cultiver la rose pour la rose, quoi. Ce n'était plus une fleur parmi d'autres dans le jardin, c'était un centre de plus particulièrement, des espaces plus particulièrement dédiés à la rose. On avait ça déjà en Perse, le golestan, gol c'est la rose, la fleur la rose, et le golestan c'est la parcelle de jardin qui est réservée aux roses dans les jardins persans.
On met donc à cette époque l'art nouveau et l'art déco, mais en même temps, la rose, on la stylise également. Ce n'est pas la période où elle est stylisée sur les tissus, pour les tentures, pour les vêtements.
Oui, oui, tout à fait. On a la rose à la période de l'art déco. Alors, l'art nouveau, c'est beaucoup plus inspiré de fleurs d'eau. Iris, ce style de... Oui. Voilà, ce style... Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que c'était le style nouille et qu'on avait besoin de plantes avec des longues tiges, des fleurs, des feuilles qui retombent et qu'on pouvait... Voilà. Mais la rose a quand même été dans l'art nouveau et un peu dans l'art nouveau et dans l'art déco. Et on s'en est bien... On l'a beaucoup utilisé pour des décors, effectivement, dans les résidences, plus seulement dans les églises, mais dans les résidences particulières, où là, on avait soit de la ferronnerie d'art, de la ferronnerie de façade, où on trouvait des roses, soit des sculptures de façade aussi, ce qui permettait de classer une résidence. Et c'était aussi l'abondance de sculptures était aussi un signe extérieur de richesse sur certaines façades. Alors, on a parlé de cette évolution de la rose, oui. Rose ancienne, rose moderne, et cette on peut se demander qui est donc cet homme à la rose.
L'homme à la rose, celui qui cherche à créer ce nouveau rosier.
Voilà, comment s'appelle-t-il cet homme à la rose ?
Oui, qui est-ce ?
Eh bien, c'est un obtenteur. Ça, c'est un nom un petit peu technique, mais c'est les premiers rosieristes vont être un petit peu, comment dire, bricoleurs, et ils vont créer des roses un peu comme ça, à l'inspiration, mais ensuite... des hommes de laboratoire qu'on va appeler des obtenteurs vont faire une véritable profession de cette transformation transformation de la rose initiale, je puis dire, et ils vont en faire une profession, plus que ça une industrie comme les autres, avec ses lois, ses brevets, ses enjeux économiques, ses exportations à l'étranger. Et des lois et des brevets, parce que, eh bien, à partir du moment où on crée une rose, elle a un titre de propriété, et donc on la baptise, on crée cette rose, et donc ensuite elle va donner lieu à des redevances, enfin quand on voudra la créer,
comme
la répliquer, voilà.
Comme un genre de brevet que l'on...
Voilà, les brevets. Voilà. Et la région lyonnaise a occupé vraiment une place exceptionnelle dans l'histoire des roses au XIXe siècle. Cinq générations, par exemple, je prends l'exemple de la famille Guillot, cinq générations de la famille Guillot ont consacré leur vie à la culture et à l'hybridation des roses. Ce sont les Guillot qui, en 1867, ont obtenu la France, c'est-à-dire la première rose moderne, première hybride de thé, qui a été baptisée la France. Et ce sont eux qui ont inventé la méthode de greffage qu'utilisent encore tous les rosieristes du monde pour multiplier leurs rosiers. Et beaucoup de leurs créations d'autrefois ont atteint la célébrité, comme bien sûr la France, mais aussi Pâquerette ou Joséphine de Beauharnais. Ils ont créé une nouvelle ligne de roses, Generosa, qui ressemble à des roses anciennes, mais offre les longues floraisons des créations récentes. Parce que là aussi, on voulait plus de durée. Mais la rose peut-elle durer ?
Couleur FM 97.1, suivez le guide avec Elisabeth Boivin. Mignonne, allons voir si la rose. Quoi de mieux que de suivre la suggestion d'Elisabeth et de vous passer le printemps en mi majeur des quatre saisons de Vivaldi avec le chef d'orchestre ici, Alun Francis. Un poète perse, Firdousi, dit ceci vers les années 1940. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Le jardin de roses est aujourd'hui plein de fleurs, mais demain, quand tu voudras cueillir une rose, il ne pourra peut-être pas t'en offrir une seule. Elisabeth, profitons du moment. Donc, peut-on dire de nos jours qu'on est aussi friands d'orner son jardin de roses? La rose reste-t-elle prestigieuse, celle qui alimente un commerce international? N'est-ce pas le cas déjà dans l'Antiquité?
Oui, dans l'Antiquité, Une fois que, comme je l'ai dit précédemment, la rose a supplanté le lotus, eh bien, la Grèce a cultivé la rose à grande échelle, vraiment, et même elle en importait d'Égypte. Donc l'Égypte en cultivait elle aussi, bien que le lotus ait toujours été une fleur phare, mais supplantée à un temps par la rose. Et la rose a joué un rôle très important dans l'Antiquité par ses qualités médicinales, par des qualités culinaires, par des qualités de parfumerie, par sa simple ornementation, puisque on s'en servait pour orner les statues des dieux, pour orner les autels, pour décorer les palais pendant les cérémonies. Vraiment, la rose était omniprésente. Et elle a tellement présente que à l'époque de la décadence de l'Empire romain, eh bien, elle a participé aussi aux orgies, enfin, le parfum de rose entêtant, voilà, elle a été...
C'était l'opium à ce moment-là.
Oui, quelque part, c'était quelque chose comme ça. Donc, bon, elle a eu ce côté un petit peu... elle a participé à un temps de décadence, mais on ne peut pas dire qu'elle est décadente, non. Elle est toujours là, cette rose. Peut-elle durer ? Ben, elle peut durer parce que dans des décorations, dans des flacons de parfum, dans des tableaux. À ce sujet, je veux citer Henri Fantin-Latour, qui est né à Grenoble en 1836 et qui s'est assez vite orienté vers la peinture florale, et en particulier la peinture des roses. Donc, il s'opposait en cela un peu aux Lyonnais qui peignaient beaucoup de fleurs parce qu'on était dans la soierie, l'impression sur étoffe, et on avait besoin de motifs floraux. Il les peignait beaucoup dans toute leur, précision botanique, alors que Fantin-Latour, à travers des touches de pinceau un peu légères et effleurées, voilà, arrive à donner ce sentiment vaporeux de la pétale de rose lorsque la fleur est totalement ouverte. Donc c'est un peintre régional il y a eu une exposition à Grenoble récemment sur lui, et ses tableaux sont toujours très très intéressants à aller admirer, voilà. Et alors la rose a aussi toute une symbolique. Alors on a évoqué la symbolique religieuse, on évoque aussi la symbolique de personnes qui ou les petites couronnes de roses blanches dont on ornait les jeunes filles pour attester de leur innocence. Tout plein de symboles comme ça. Et un symbole qui est assez particulier, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Dans l'Antiquité, on décorait de roses peintes sur les murs certaines pièces des maisons. Et lorsque les invités s'y retrouvaient ou étaient conviés dans un endroit où une rose était accrochée, par exemple, le message était très clair. Ils savaient qu'il ne fallait pas divulguer ce qu'il leur serait confié. Cela... Ah oui. Et de là vient l'expression sub rosa. Sub rosa qui signifie sous la rose, littéralement. Mais quand on vous dit quelque chose sub rosa, ça veut dire que vous ne devez pas le divulguer.
Voilà. C'est intelligent, ça, d'avoir ce genre de c'est pas une prédiction, mais de expliquer.
Oui, une précaution.
Précaution.
On n'a pas besoin de précaution oratoire. On avait besoin de regarder s'il n'y avait pas une rose accrochée. Ou... Mm-hmm. Mais quelque chose de beaucoup moins fin ou de beaucoup plus violent. On dit aussi que l'empereur Néron conviait ses ennemis dans les salons de ses palais, dont les plafonds étaient décorés de grands drapés contenant des quantités énormes de pétales de roses. Enfin, des agapes, Néron ordonnait de dénouer ces drapés et ses ennemis mouraient étouffés sous le poids des pétales de roses libérés.
Ça veut dire qu'il en faut une
il en faut.
Masse
il en
énorme.
Faut beaucoup, oui.
Ah oui.
Voilà.
Oh, mourir comme ça, sous le parfum et les pétales.
Oui, mais il y a quand même le mot mourir.
Oui, malheureusement.
Voilà. Et alors, on peut évoquer aussi la tradition des jardins islamiques qui arrive en Tunisie, ensuite par les Maures en Espagne. Et ceci amène la rose, Rosa Moscata, la rose musquée. Voilà. Et le mot rose n'est pas attribué uniquement aux fleurs. En fait, ce peut être aussi l'ouverture au centre de certains instruments. On parle de la rose du luth, par exemple. Il existe aussi la rose des sables,
ah oui,
constituée exact. De cristaux de gypse. Ou bien encore la rose des vents, qui compte 32 aires de vent. Ou la rose de joaillerie. Ou aussi la rose de lumière ou rosace en vitrail.
Ah voilà, rosace vient de
oui.
rose.
Ah voilà. Voilà. Mmh. Enfin, la rose a laissé sa trace dans des expressions courantes. Être frais comme une rose.
Ah, ça c'est quand on se lève du bon pied.
Voilà. Ne pas sentir la rose.
Ah, ça c'est l'inverse. On n'aura pas pris le bain pendant 3 mois.
À l'eau de rose. Une histoire à l'eau de rose.
Oh, sentimentale.
Voilà, un peu, oui, sentimentale, romantique. Découvrir le poteau rose.
Ah, c'est quand on découvre une histoire qu'on voulait cacher et qui vous concernait précisément.
Voilà, mettre à jour un scandale.
Voilà.
Ne pas être sur un lit de rose.
Ah, je ne vois pas bien directement.
Eh bien, être dans une situation difficile.
Ah oui, on ne retient que les épines.
Voilà,
moment-là.
Voilà. Envoyer quelqu'un sur les roses.
Oui, on l'envoie promener.
Voilà. Nulle rose sans épines.
Ah, il y a toujours le revers de la médaille
voilà.
de bonnes choses.
Et cueillir la rose pendant qu'elle est en fleur.
Je ne sais pas, qu'il faut en profiter.
Voilà, éphémère, on est sur... C'est souvent d'ailleurs, moi, elle est porteuse du symbole de l'amour, quand elle est rouge, bien sûr, et le côté éphémère. Et alors, il y en a une qui me plaît beaucoup. Il n'y a point de belles roses qui ne deviennent gratte-cul.
Oh, c'est, voilà. C'est l'enfance qui se termine, non?
Voilà, c'est le revers de la médaille aussi, si on peut le dire.
Oui.
Voilà, et lorsqu'une jeune femme dit avoir perdu la plus belle rose de son chapeau, on sait qu'elle a perdu la fleur de sa virginité.
Oh, c'est magnifique toute cette rose. Où peut-on, où pouvez-vous nous laisser guider et voir des
Alors, on a la chance, le privilège d'être à 20 minutes par le train de Lyon ou à une demi-heure en voiture de la roseraie de Lyon qui est
magnifique.
La grande roseraie du parc de la Tête d'Or, aménagée en 1964, qui regroupe aujourd'hui plus de 320 variétés différentes. Chaque année en juin, on peut découvrir, s'étonner, s'émerveiller devant environ 60 000 rosiers.
C'est énorme.
C'est énorme. Mm-hmm. Et il y a aussi classé jardin remarquable par le ministère de la Culture, la Bonne Maison, qui est un jardin situé à la Mulatière. dans le Rhône, mmh. sur la colline de Sainte-Foy-les-Lyon.
D'accord.
C'est un ancien potager et verger. Il a été redessiné et replanté par sa propriétaire depuis 1966. Et en 1989, il s'ouvrait au public et devenait Association Loi 1901 pour la sauvegarde et la propagation des roses anciennes et botaniques. Et il contient 800 variétés de rosiers.
Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, nous vous rappelons la mulatière à Sainte-Foy-les-Lyon.
La bonne maison.
La bonne maison et la roseraie de Lyon. Merci ouais. beaucoup. Merci, Laurent. Et à très bientôt pour la suite.
Au revoir.
Au revoir.